Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Jean Tellet sort un nouveau roman qui a pour titre « Gare à loups ». C'est aux éditions Julliard et c'est l'histoire d'une gamine de 12 ans, Lou donc, qui a un drôle de pouvoir, un drôle de don. Dès qu'elle souhaite du mal à quelqu'un à voix haute, eh ben cela se produit. Bonjour Jean Tellet.
Bonjour.
Le Réveil culturel est une émission préparée avec Maëlle Ray et Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin la technique Philippe Mercher.
Le Réveil culturel. Lundi, livre.
Alors cette fois-ci, ce n'est plus l'histoire, ce n'est plus les intrigues de la France médiévale ou de la France du Roi Soleil. On est dans un futur proche d'ailleurs, hein, puisqu'il y a quelques indices qui nous permettent de dire que cette histoire, elle n'est pas si loin que ça dans le futur.
Oui, non, je crois, c'est un futur indéterminé et c'est dans un endroit, et ça se passe dans un pays qui n'est jamais nommé. Et d'ailleurs, dans ce roman, tous les pays dont on parle, il n'y en a aucun qui a un nom de pays actuel. Donc on se dit qu'entre maintenant et l'époque du livre, il y a dû y avoir de gros changements. Et puis moi, j'avais envie, après avoir écrit pas mal de romans historiques, ou bien un truc comme Une respiration, qui était aussi que des histoires vraies, de retourner à la fiction. Et depuis le magasin des suicides... Mmh. J'en avais pas réécrit et autant quand j'écris des romans historiques, il faut absolument beaucoup se documenter, il faut pas se gourer, il faut pas dire que le 18 mai 1517 c'était
beau.
Un mardi, oh. Alors que les historiens tout de suite, mais comment il peut dire ça, qu'il est con, c'était un jeudi et tout, donc faut faire super gaffe. Tandis que là, dans une fiction, on fait ce qu'on veut et ça fait du bien aussi. Ouais.
Et là, vous faites avec une jeune gamine de 12 ans, Lou.
Oui, et toujours par rapport au magasin des suicides.
Il vous fallait une fille cette fois-ci.
Voilà, qui racontait l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Alan dans le magasin des suicides, qui avait une particularité, c'est qu'il apportait le bonheur dans un monde de malheur. Et depuis longtemps, je me disais, j'aimerais bien faire le pendant de ce livre, mais cette fois-ci avec une petite fille. Et puis je cherchais des idées, puis je trouvais pas. Et l'idée m'est venue très curieusement, c'était pendant que je faisais la promo de mon précédent roman, Entrée dans la danse, j'étais dans une librairie de province et à un moment le libraire vient me voir en disant « Ah Jean, il y a un problème, vous avez votre train à 18h30, mais regardez tous les gens qui attendent et alors qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis « Ben qu'est-ce qu'on fait moi, il faut que je rentre ce soir, demain je vais dans une autre ville et tout. » Il dit « Oui mais il y a un autre train à 20h. » Oh bon, s'il y a un train à 20h, je vais prendre celui-là. Je prends le train de 20h, je me trouve en début de compartiment. Et là, un contrôleur arrive, il me demande mon billet, je lui sors, tout ça, il regarde, et puis il continue de demander des billets aux autres passagers. Et tout d'un coup, je veux lui poser une question sur mon voyage du lendemain. Et je le rappelle, je fais « Monsieur, je peux vous poser une question ?» Il revient me voir, je lui pose ma question, je sais même plus laquelle. Et il me regarde, il me dit « Je peux voir votre billet ?» Je lui dis « Mais je viens de vous le faire voir. » Il dit « Oui, ben faites-le voir encore. » Je lui refais voir. Il me dit « Vous n'êtes pas dans le bon train. Vous auriez dû prendre le train 18h30. » Je lui fais « Ouais, d'accord. Et alors ?» Il dit « Ben, je vais vous mettre une amende. » Et là, je lui dis « Vous êtes quand même gonflé. Je vous montre mon billet, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle pour avoir un renseignement auquel je n'ai toujours pas la réponse. Et vous allez me coller une amende ?» Il me dit « Oui. » Je lui dis « Et si je ne veux pas payer ?» Il me dit « Ben, c'est pas compliqué. » «
Mais il fallait changer votre billet, Jean Tellet. »
Mais oui, mais entre 18h30 et 20h.
Qui vous invite.
Et je lui dis « Et si je ne veux pas payer ?» Il me dit « Ben, c'est pas compliqué. J'appelle la police, à la prochaine gare, ils viennent vous chercher. » Bon. Je paye. Et au moment où il va pour partir, m'arrive un truc dans la tête qui m'est jamais arrivé, que j'ai jamais dit à personne. Au moment où il se retourne, je le rappelle, alors il se retourne vers moi, je dis « Monsieur, écoutez-moi bien, regardez-moi bien. Je vous souhaite un très grand malheur pour bientôt. Et si ça arrive, au moment où ça se produit, rappelez-vous de moi. » Et là, curieusement, c'était une ânerie que je disais. J'ai senti que ça y avait fait vraiment un truc. Et il m'a dit « Ah ben c'est gentil et tout ». Et au lieu de reprendre le bon sens qu'il avait pris pour demander les tickets, il est reparti dans l'autre sens et je l'ai plus jamais revu du voyage. Et tout de suite, je me suis dit « Mais c'est ça !» la spécialité que je cherche pour la petite gamine, pour le roman que je veux faire. Et tout de suite, un tas de trucs me sont arrivés. Je me suis dit, ça se passera à la même époque que le magasin des suicides. Elle habitera dans une tour qui s'appellera la tour de l'incendie. Ça sera au bord de l'avenue du Bonheur. En face, il y aura le bar des sanglots. Son pouvoir va être opéré, parce qu'à chaque fois qu'il avait souhaité du malheur à quelqu'un, ça va se produire. Ça va se savoir à la présidence du pays. Qui va décider de l'utiliser comme arme absolue? Je suis arrivé à la gare, j'avais la moitié du livre dans la tête. Ce qui fait que ce contrôleur, au lieu de lui en vouloir, je le remercie. Et maintenant, où moi je vais repartir beaucoup en province et tout, si ça se trouve, je vais le retrouver. Et j'espère que cette fois-ci, il ne va pas me réclamer des droits d'auteur.
Gare à loup, voilà, c'est le titre de votre roman, Jean Tellet, parce qu'une fois qu'on découvre que cette jeune collégienne a un don, c'est-à-dire de pouvoir non seulement se défendre, mais se venger sur les gens qui l'embêtent, pour dire les choses comme ça, elle va être effectivement réquisitionnée, pour ne pas dire enlevée,
mais ouais,
par les pouvoirs publics, par l'État, par le président de ce pays imaginaire, et ses trois chefs de guerre. Alors, il l'enlève en essayant de restituer tout sa chambre, son entourage, pour qu'elle soit très à l'aise, parce qu'ils veulent l'utiliser effectivement comme arme de destruction massive, ça c'est le mot que l'on puisse dire.
Oui, oui, et sauf que ça va pas bien se passer, parce qu'à 12 ans, ben, elle rentre en crise d'adolescence. Et au bout d'un moment, elle se demande si c'est si bien que ça de souhaiter du mal aux gens et tout, et commence à en avoir marre, et les trois chefs de guerre qui doivent s'occuper d'elle nuit et jour, lui faire à manger, lui laver son linge, s'occuper d'elle complètement, et lui transmettre les ordres de la présidence, elle va devenir vraiment pénible, et assez vite, les trois
chefs... Même s'ils s'en servent bien, hein, elle rend quelques services.
Ah, hein. Elle rend des services absolument formidables. Elle règle des problèmes, mais alors elle les règle de chez régler. Mais au bout d'un moment, les trois chefs de guerre vont quand même se dire qu'ils regrettent le bon temps de la bombe atomique, qui était autrement plus facile à manier que cette gamine pleine d'acné et à appareil dentaire qui, elle, se révèle être absolument ingérable.
Est-ce une fable, Jean Tellet?
Oui, c'est exactement ça. C'est vrai, c'est une fable ou un conte futuriste et un peu fantastique. Et moi, je sais pas bien dire ce que ça veut. Moi, je comprends pas bien mes livres. Je les comprends que quand des gens les lisent et m'en parlent. Autrement, je sais pas ce que je veux faire. Je sais pas ce que je veux dire quand j'écris un livre. Je
fais vous avez ça la comme fin. Ça vient. Vous avez la fin avant d'attaquer le début. C'est quand
pratiquement. Oui. J'avais la fin. Ouais. Et je voulais que ce soit une vraie fin qui, en même temps, n'est pas complètement une fin, mais en tout cas qu'on retombe sur les pieds. Puis surtout, j'avais envie d'emmener les gens qui liraient ce livre, qui liraient la première page, ils aient envie de lire la deuxième et les prendre par la main et les emmener ailleurs dans une histoire complètement barrée et tout, dans un autre monde. Enfin, j'avais envie de faire rêver les gens, quoi.
C'est un roman édité chez Julliard, un roman classique, mais avec des images à l'intérieur.
J'aime bien ça, mais ça, c'est mon passé de dessinateur de bande dessinée. Ouais. Et maintenant, comme techniquement, on peut facilement mettre des images. Puis moi, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup lire des Jules Verne, des romans comme ça du 19e siècle, où il y avait des illustrations. J'aimais bien ça. J'aimais bien ça, ça me plaisait
c'est
beaucoup.
C'est vous qui avez choisi les illustrations?
Oui, c'est même moi qui les ai faites. Comme j'étais dessinateur, je refais ça. Ouais.
Jean Tellet, quand on écrit un livre, c'est de la pure fiction, c'est une fable, avec un côté fantastique, on est dans un futur pays imaginaire, est-ce que, une fois qu'on est dans cette bulle, on est quand même rattrapé par l'actualité? On a quand même envie qu'il y ait de temps en temps quelques échos, quelques liens, quelques fils avec ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Et par exemple, là, c'est notamment par rapport à la pollution, parce que ça se passe dans un pays qu'on connaît pas, donc, mais où on apprend que les arbres tels les chênes, les hêtres, les frênes, tout ça, ont disparu. Qu'il n'y en a plus. La capitale de cette ville où se passe cette histoire, il y a par moments des odeurs de fleurs d'orange. Et on se dit, tiens, ça doit être le vent du sud. Et comme c'est le vent du sud, les tables du bar des sanglots ont de la poussière de sable. On apprend qu'il n'y a plus de source. dans le pays, et que même le pays est en négociation avec un pays que j'ai inventé qui s'appelle l'archipel des mille cavernes, qui revend ses réserves d'air pur. Et donc ça, c'est des rapports à ce qu'on est en train de vivre avec l'écologie et des choses comme ça, quoi.
Et la monnaie est mondialisée, puisque dans ce futur indéterminé, on paye en yens euros.
Voilà, exactement. Ouais. Et le président est de type chinois, il s'appelle Hannibal Chanchou. Et puis son palais présidentiel, qui ressemble beaucoup à l'Élysée, se retrouve à l'intérieur d'une boule à neige.
Boule
ce qui
neige,
fait
ouais.
que quand les voitures arrivent pour les convois officiels, pour les rendez-vous, tout ça, il y a des particules blanches au sol qui s'élèvent à l'intérieur de la boule à neige, et ça ressemble donc vraiment à une boule à neige. Et ça aussi, on dit souvent que le pouvoir, les gens de pouvoir vivent dans une bulle et sont pas au contact de la réalité. Et là, le président de la République, il est réellement dans une bulle à l'intérieur de sa boule à neige.
Les autres personnages, les militaires, Robert, la mère de Lou, ce sont des caractères qui sont venus avec l'intrigue, avec l'histoire. Une fois que vous aviez cette jeune gamine de 12 ans, une fois que que je lui avais donné ce don qu'elle a, comment viennent se greffer les autres personnages?
Oui, la mère elle ressemble à des... Moi, quand je vais en province, je parle beaucoup aux gens, j'ai rencontré beaucoup de femmes seules qui élèvent un enfant et des fois qui sont très pauvres. Et tellement pauvres qu'elles me racontent que, par exemple, elles se sacrifient de repas pour nourrir leur enfant, qu'elles s'habillent qu'avec des vêtements que des collègues prêtent et tout ça. Et j'avais envie que la mère de Lou, Roberte, soit un beau personnage et vive et raconter son chagrin, parce que sa fille est kidnappée par l'État. Et on lui dit, on a pris votre fille et on ne sait pas quand on vous la rendra.
Mais on va vous payer.
Mais on va vous aider. Voilà. Ouais. Et voilà.
When I was very young, the world was younger than I. As merry as a carousel. The circus tent was strung with every star in the sky. Above the ring I loved so well. Now the young world has grown old. Gone are the tinsel and gold. Sit there and count your fingers. What can you do? Old girl, you're through. Sit there and count your little fingers. Unlucky little girl blue. Sit there and count the raindrops falling on you. It's time you knew all you can count on are that fall on little girl blue.
Voilà une chanson parfaite pour les petits matins de France Culture et pour le réveil culturel de Jean Tellet à l'occasion de la sortie de Gare à Lou. Alors Lou, on a parlé de ses dons, on a parlé de comment elle va devenir un personnage stratégique pour ce pays imaginaire, comment on va l'utiliser, comment elle va s'en sortir, parce qu'elle va s'en sortir. Mais on peut dire aussi que cette gamine en pleine crise d'adolescence, elle a aussi bon goût, puisque elle peut réciter les poèmes d'Arthur Rimbaud. Ça tombe bien, Chantelet. Nous sommes en plein printemps des poètes. C'est les 20 ans de cette manifestation.
Ouais.
Vous avez tenu à ce qu'il y ait du
Rimbaud. Ouais. Et à un moment du Aragon aussi.
Et Aragon.
Parce que la serveuse du bar des Sanglots accoste les gens qui passent sur le trottoir en leur disant deux verres de Rimbaud, d'Aragon, j'ai des sanglots, en voulez-vous ?
On pourrait dire que c'est pour des raisons commerciales. Alors que Lou, récitant le dormeur Duval, on est surpris.
Oui, mais
elle est très surprenante d'ailleurs.
Tout ce que celui qui lui apprend le dormeur Duval, tout ce qu'il lui pose comme question, c'est sachant que ce poème a été écrit en 1871 et qu'on suppose que le dormeur Duval est un Français, quelle arme l'a tué ? Parce qu'il s'intéresse qu'aux armes. Alors elle répond, c'est un fusil de raise, un canoncier, machin, tout ça, très efficace, opposé au fusil chasse-peau des Français. C'est-à-dire que même quand c'est pour un poème de Rimbaud, ça n'est que technique et que sur les armes.
Mais pour vous, venant de votre part, Gentelet, c'est pas par hasard que vous avez choisi ce poème.
Rimbaud, c'est ce que je crois que c'est Claudel qui disait ça, c'est au-dessus de toute littérature, bien sûr, c'est fabuleux. Rimbaud, Verlaine, Villon,
c'est votre trio de poètes.
Ah ouais,
ils sont où dans votre univers, c'est-à-dire ils sont présents dans votre maison, je suppose,
tout le temps? Oui. À un moment, j'avais même une lettre de Rimbaud que j'ai revendue. J'ai le contrat des Fêtes Galantes de Verlaine, et puis finalement je me débarrasse de tout ça parce que ça sert à rien, mais ce sont mes trois phares. Ouais.
Alors comment vous avez goûté à cette poésie là, qui vous a donné ce plaisir?
C'est par hasard, c'est
sans dehors de l'école, donc
quand j'étais au collège, un midi chez mes parents, j'entends une chanson à la radio qui s'appelait C'est extra. Je trouvais ça beau. Et en retournant à l'école, j'ai entendu un nouveau chanteur à la radio qui chantait une chanson qui s'appelle C'est extra, un nouveau chanteur qui s'appelle Ferré, j'ai retenu le nom. Dit, oh là là, c'est pas du tout, mon copain dit, c'est pas du tout un nouveau chanteur, c'est un vieux chanteur. D'ailleurs, mon frère en a des disques et j'en filerai un. Et il file un disque, mais sans la pochette pour pas que son frère s'aperçoive qu'il l'avait volé. J'écoute ça, ce 33 tours. Et je trouve les paroles, mais hallucinantes.
Et je me dis, comment il a écrit ça?
Et au bout d'un moment, je regarde le crédit des chansons et je m'aperçois qu'en fait, c'était un double album où Ferré chantait Rimbaud et Verlaine. Et c'est comme ça que j'ai découvert Rimbaud et Verlaine, et je suis tombé dedans grâce à Ferré qui a chanté ça extraordinairement bien.
Et d'où vous vient cette envie d'écrire, ce plaisir? Comment vous l'appelez, plaisir, passion?
Ouais, plaisir.
Et c'est venu, ce que je voulais dire, Gentelet, c'est venu d'une envie de raconter des histoires,
oui.
Ou bien vous prenez du plaisir à écrire, à jouer avec les mots?
Non, de raconter des histoires, et d'ailleurs, j'ai eu envie de faire la même chose que Ferré avait fait avec moi, avec son double album sur Rimbaud Verlaine, en écrivant au Verlaine, je François Villon, et puis avant Rimbaud pour Rimbaud. Moi aussi, j'avais envie de faire mon boulot de passeur, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, parce que, pareil, plein d'adolescents que j'ai pu rencontrer m'ont dit que, ben, sans moi, ils auraient pas connu ces trois types-là, et je trouve que c'est bien que, successivement, chacun dans son art, Ferré dans la chanson, moi avec la littérature.
Je vous pose cette question parce que quand même, quand vous avez commencé à travailler pour le cinéma, pour la télévision,
la bande dessinée,
la bande dessinée,
et c'est adapté maintenant. Jean-François Villon a été adapté en bande dessinée, par exemple, et tout, et c'est agréable à des lecteurs de bande dessinée de leur faire découvrir un type comme Villon, quoi.
Votre dernier roman, Gentelet, Gare à loup, fait moins de 200 pages. Et cette fois-ci, c'est de la fiction, donc pas de recherche, pas d'archives. Ça vous prend beaucoup de temps pour...
Non, celui-là, j'en reviens pas. Je l'ai écrit en 4 mois. Ça m'est jamais arrivé d'écrire un roman en 4 mois.
Généralement, ça prend plus de temps.
Ah oui, ça peut prendre un an minimum, ou bien pour des romans comme Le Montespan, ou Je, François Villon, ou Overlaine, c'est 2 ans. Mais là, tout est venu. Mais c'était même assez... pas miraculeux, parce que j'aime pas dire ce mot-là, mais étonnant, parce que je suis parti comme ça, j'ai tiré un fil et tout le roman est venu, et j'avais l'impression que c'était le roman qui me dictait ce que je devais écrire. Ce qui fait que je disais, quand j'avais mon éditeur au téléphone, je lui ai dit, en fait, tu me payes comme écrivain, mais en fait, je suis dactylo, c'est le livre qui me dicte le livre. J'ai l'impression de pas être tellement responsable de ces livres. Il est venu comme ça. C'est un sentiment assez étrange.
Vous écrivez où, Gentelet ?
À mon bureau. J'ai un bureau à Paris, un bureau en Bretagne, dans une très vieille maison en Bretagne. Une maison construite l'année où Shakespeare écrivait Hamlet. Et ça me plaît. Et mes deux bureaux sont disposés exactement pareil, avec le même mobilier, tout. L'imprimante est au même endroit, l'ordi au même endroit, les crayons, ce sont les...
Vous n'avez pas les mêmes vues.
Et non. Mais si, parce que c'est face à des murs, et il y a des Velux dans les deux bureaux. Ce qui fait que quand je passe de l'un à l'autre, je suis pas déstabilisé, tout est exactement pareil.
Alors, est-ce que pendant ce temps-là, c'est-à-dire, est-ce que pendant ce laps de temps où vous êtes absorbé par l'écriture d'un roman, Gentelet, vous avez le temps, vous, pour lire d'autres romans, d'autres classiques?
Mais je lis pas, moi. Je lis pas de romans. J'en lisais pas avant d'en écrire, et je n'en lis toujours pas. Je m'oblige à en lire entre deux romans. Et par exemple, là, quand j'ai fini Gare à loup, ça faisait longtemps que je connaissais évidemment l'expression la peau de chagrin et tout, et je trouvais que c'était une très bonne idée, le roman de Balzac, et j'ai voulu le lire. J'ai trouvé ça emmerdant comme tout. Et puis, j'ai entendu qu'il y avait un autre roman que j'avais évidemment jamais lu. C'est 1984, et j'avais entendu qu'il y avait une nouvelle traduction et
donc
tout.
Donc, vous avez pris la nouvelle traduction. Je l'ai lu,
et alors ça, j'ai trouvé ça vachement bien. J'ai trouvé ça formidable, ce roman. Mais je veux pas en lire, parce que moi qui ai tellement aimé la poésie, jamais je n'écrirai un poème. Le premier vers que j'écrirai, je me dis, bon, bah, c'est pas la peine. Après, Rimbaud, Verlaine, Villon, écrire ça, c'est vraiment pas la peine. Donc je veux pas lire de romans, parce que j'ai peur que ça me coupe les pattes et me dire, s'il y a des mecs qui écrivent comme ça, c'est vraiment pas la peine que je prenne un crayon pour écrire.
Mais plus jeune,
je préfère rester
avant...
vierge comme ça.
Non, mais avant de vous lancer dans la carrière d'écrivain, vous étiez lecteur de romans, de livres,
Non. Et la première fois que j'ai vu l'éditrice qui, parce que c'est moi, c'est une éditrice qui a décidé que je vais écrire des romans. Elisabeth Gilles, elle s'appelait, parce que maintenant elle est décédée. Quand je travaillais à la télé, un jour, elle m'a appelé à Canal en disant, ça fait des années que je vous entends, ça fait des années que je me dis qu'en fait, vous êtes un écrivain qui ne le savait pas. Venez, je vous signe un contrat. Et c'est comme ça que c'est venu. Et quand elle m'a dit, mais je voudrais que vous écriviez un roman, quand je l'ai rencontré, j'ai dit, mais j'en lis pas, moi, des romans. Et puis elle m'a convaincu, et j'ai écrit un premier, et ça m'a vachement plu. Et depuis, je ne veux plus faire absolument que ça. Ouais.
Parce que vous avez un don de raconter des histoires,
mais
c'est
oui,
ça ?
Mais oui, je me sens bien, ça me donne envie de raconter des histoires aux gens. C'est comme si je leur chuchotais un truc à l'oreille, une histoire, comme on dit ça aux enfants avant qu'ils s'endorment. Je trouve que c'est un joli métier de raconter des histoires aux gens.
C'est d'autant plus un joli métier que vous faites partie de ces privilégiés qui pouvaient vivre avec votre plume.
C'est incroyable.
Gentelet.
Ouais. Alors qu'il paraît qu'on n'est qu'une vingtaine en France qui pourrait vivre que de ça, et moi je refuse tout ce qu'on propose. On propose des trucs incroyables. Je refuse tout. Je veux plus faire que ça et avoir la chance de vivre, et en plus très confortablement, rien qu'en racontant des histoires aux gens. Mais c'est un pied total, ça. Et le matin, on se lève quand on veut. Écrivain, il n'y a pas de réveil. Je travaille au rythme que je veux. Je fais strictement ce que je veux. Personne ne me donne un ordre. Et j'en vis très bien.
Et vous aimez la rencontre Aller à la rencontre de vos lecteurs,
oui,
Jean Tellet ?
Oui, oui, parce que quand j'écris, je ne vois strictement personne. Mais je m'isole totalement. Je vois plus un copain, plus rien. Je passe des fois des journées entières où je dis pas un mot à un être humain. Et au moment de la sortie d'un livre, j'ai l'impression de vivre un mouvement d'essuie-glace. Tout d'un coup, j'accasse, je parle à des gens comme vous, à des lecteurs, tout ça, lors de dédicaces dans les librairies, les salons du livre. Je jacasse. Et au bout d'un moment, je sens que j'ai besoin de me refermer et de repartir dans un roman et j'alterne comme
ça. Je suis sûr qu'il y a 1000 idées qui germent dans votre imaginaire et qu'il y en aura bien une qui va pousser.
Mais pour le moment, rien du tout.
Ah bon?
Mais ça arrive toujours par hasard, moi, mes idées de roman, comme celui de Garalo, tout ça, parce que j'ai pris le train et que j'avais pas le bon billet.
Jean Tellet, merci d'être passé. Je rappelle.
Moi qui vous remercie. Et puis, elle est drôlement agréable, cette émission. Elle est très bien animée, en plus, cher monsieur.
Merci beaucoup. Cette émission, vous pouvez bien sûr la réécouter en passant soit par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast, en passant entre autres par franceculture.fr. Garalou de Jean Tellet est édité par Julliard. Bonne matinée.